France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, hommage à Henri Betti, le compositeur de C'est si bon, un tube mondial composé en 1948, il y a 70 ans. Henri Betti fut aussi l'auteur de nombreuses opérettes et de chansons à succès pour Maurice Chevalier, Yves Montand ou Édith Piaf. Pour évoquer sa vie, je reçois son fils François Betti et son petit-fils Olivier Betti. Mais d'abord, après cette semaine marquée par les effusions d'amitié entre chefs d'État, qu'il s'agisse des présidents français et américains ou des dirigeants coréens, écoutez ce qu'ils se sont dit, ces nouveaux copains inséparables.
Alors, je vois que nous avons eu une petite rentrée inespérée.
Nous ?
Oui, mon vieux, je dis nous parce que je suis toujours de moitié avec toi dans tes petits ennuis d'argent. Quand tu n'en as pas, je n'en ai pas. Oui, mais quand t'en as, j'en ai.
T'as raison, ben, en vrais amis qui s'aiment beaucoup,
nous, nous partageons tout.
Cravate, cigarette, béguin ou galette, et nous n'avons qu'un front commun, car toi c'est moi c'est toi.
Tout ce qu'on a,
on se le prête,
on l'échange, il n'est pas de bonheur sans mélange, puisque toi c'est moi c'est toi.
Nous sommes comme les deux doigts de la main, de bons copains.
Nous partageons au même moment
les mêmes sentiments.
Quand j'ai un malheur,
aussitôt je pleure,
mais dès que je ris,
je souris, car
toi c'est moi.
Moi c'est toi.
Ce que je sens
sur le champ, je le sens.
Quand je bois,
j'ai la gueule de bois. Puisque toi, c'est moi.
Moi, c'est toi.
Nous formons depuis des mois et des mois deux frères siamois.
Nous ne pouvons, il faut le déclarer,
jamais nous séparer.
Comme un vrai toutou,
je t'accompagne partout.
En train, en auto,
au piano, car
toi c'est moi,
moi c'est toi.
Quand je chante,
aussitôt moi je chante, l'harmonie dans la vie nous unit. Puisque toi c'est moi,
moi c'est toi. Nos deux cœurs chantent en chœur leurs chansons, ils sont.
Les avez-vous reconnus, ces deux grands duettistes français des années 30, Pils et Tabé, Jacques Pils et Georges Tabé, ici donc dans une opérette à grand succès de 1934 intitulée justement « Toi, c'est moi » sur la musique de Moïse Simon. C'est d'ailleurs une adaptation en film de cette opérette. Et puis il y a la fameuse chanson des Palétuviers roses, mais aussi d'autres petits trésors moins connus comme ce « Toi, c'est moi ». À préciser que c'était Georges Tabé lui-même qui était à la fois en train de chanter et de jouer du piano. nous voilà emportés maintenant par les langueurs brésiliennes avec Jacob do Bandolim, ce grand musicien mort en 1969. C'était l'un des maîtres du choro, vous savez, cette musique instrumentale brésilienne qui traditionnellement était d'abord plutôt jouée à la flûte, et avec Jacob do Bandolim ou quelques autres, eh bien c'est la guitare et plus précisément la mandoline brésilienne qui a pris le dessus dans un certain nombre d'enregistrements très beaux, comme celui qu'on vient d'entendre, date de 1952 et intitulé Migalhas de Amor.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Mais maintenant, c'est un grand musicien qui va être également mis à l'honneur dans cette émission. Vous ne le connaissez pas forcément et en même temps, tout le monde le connaît partout dans le monde, au moins à travers un tube qui fut créé il y a 70 ans. C'était C'est si bon, enregistré pour la première fois en 1948, en février précisément, par l'orchestre de Jacques Ellian. Le morceau d'ailleurs a été enregistré plusieurs fois avant vraiment de percer, car c'est la reprise par Louis Armstrong qui allait en faire un succès mondial. On va évoquer tout à l'heure cette histoire de C'est si bon, mais aussi les opérettes, les chansons composées par ce musicien dont je reçois aujourd'hui le fils François Betty et le petit-fils Olivier Betty qui sont donc là pour nous parler de Henri Betty.
Il y avait en Calabre, au bon vieux temps des crinolines, sans bandits malins qui avaient tous un poil dans la main. Ils portaient dans tout leur mauvais coup, c'est pas banal, une mandoline autour du cou, comme un sonal. Et le chef leur criait, quand le soir à l'attaque ils partaient, en avant le régiment de mandoline. En attaquant dal médiator, c'est nous qui serons aïe plus fort, ça vaut bien mieux qu'un tir à la carabine. D'abord c'est bien plus harmonieux et c'est beaucoup moins dangereux. En avancerant les rangs, ne claquant pas des dents, des mères sans assourdine. C'est à le moment où jamais démontrer que l'on est les bandits calabrais. En avant les régiments de mandolines. Plus fort que à la carabinière, nous sommes à la mandolinière. Et quand ils se glissaient dans les sentiers les nuits sans lune, ils avaient si peur qu'ils en étaient couverts de sueur. Ils marchaient tout seuls avec le leu et leurs cheveux se dressaient devant le chef criant, en tremblotant. Attention, compagnon, c'est l'instant de passer à l'action. En avant des régiments de mandolines. En attaquant del médiator, c'est nous qui saurons halte plus fort. Ça vaut bien mieux qu'elle tire à la carabine. Mais d'abord c'est bien plus harmonieux et c'est beaucoup moins dangereux. En avancerant les rangs, ne claquant pas des dents et marchant à sourdine. C'est à le moment où jamais à montrer que l'on est des bandits calabrais. En avant des régiments de mandolines. Plus fort que à la carabinière, nous sommes à la mandolinière. Mais un soir sur 20, un régiment des plus bizarres, ces bandits portaient une guitare au grand complet. La bagarre allait se déclencher, c'était fatal. Quand soudain le chef eut une idée, c'est machinal. Il cria tout à coup, mes amis, c'est tant pis que nous. En avant, c'est le régiment de mandoline. À ces guitares aux douze accords, cinq fois connus sont nos efforts. Ça vaut bien mieux qu'un tir à la carabine. Guitariste et mandolinière sont d'ailleurs faits pour s'accorder. Et dans le soir merveilleux, c'est un chant mélodieux qui montait en sourdine. Et tout le monde écoutait, ça sentait bon la paix, et chacun s'écriait. Abattons telle carabinière, vive la mandolinière. En arrière, marche.
Lili Fayol dans le Régiment des Mandolines en 1946, une chanson tirée d'une des nombreuses opérettes d'Henri Betty. Bonjour François Betty.
Bonjour.
Henri Betty, c'était votre père. Quand vous entendez cette chanson, ça vous évoque quelques souvenirs, même si vous n'étiez pas né quand elle est sortie en 1946.
Mais oui, mais mon père jouait ça pendant des années après. Hein. Donc j'ai été bercé avec toutes ces opérettes finalement.
Oui.
Et en effet, comme je vous le disais, je le revois au piano.
En train de jouer
la maison,
cette chanson.
En train de jouer ça avec ma maman autour.
Et il chantait lui-même en s'accompagnant.
Ah oui. Mais il a fait un tour de chant.
Oui. C'est vrai qu'on connaît un peu moins sa carrière de chanteur, un peu tardive. Mais...
Oui, un peu tardive, voilà. Mais bon, il est quand même passé au Gaumont Palace.
Oui. Alors vous-même, François Betty, vous avez, on y reviendra tout à l'heure, travaillé pas mal avec votre père du temps où aussi vous écrivez des revues pour le Moulin Rouge.
Tout à fait.
Vous êtes vous-même musicien donc.
Ah oui, on a fait plusieurs revues ensemble. C'était bien agréable.
Vous êtes donc le fils d'Henri Betty et votre fils Olivier Betty est avec nous aussi. Bonjour Olivier.
Bonjour, oui.
Et merci parce qu'on en parle depuis longtemps de cette émission. Vous avez commencé à vous intéresser aux chansons de votre grand-père très jeune ou c'est plutôt récent ?
M'y intéresser vraiment, ça fait 3-4 ans, ouais. Mais je connaissais déjà son répertoire principal, quoi.
Voilà, après, parce qu'il faut. Il faut dire que vous avez créé avec Christophe Misraki, qui était venu ici, le fils de Paul Misraki, une espèce de groupe justement des descendants des grands artistes de la chanson française.
Hein. Voilà, je tiens à souligner que c'est lui qui a créé ce groupe qui consiste donc à, comme son nom l'indique, à réunir les descendants en fait des auteurs, compositeurs, interprètes de la chanson française.
Qu'on connaît pas toujours parce qu'on connaît mieux les interprètes souvent que les auteurs et les compositeurs.
Oui, en fait, voilà, ça fait les trois, c'est auteurs, compositeurs, interprètes, et de 1920 à 1970 en fait.
Voilà.
Donc sa période. Qui fait 50 ans, quoi. Donc c'est tout ce qui est musical, voilà.
Et là, il y a plein d'infos hein, sur vos illustres ancêtres sur cette page Facebook.
Oui, après il y a aussi une page Facebook sur Henri Betty, donc que je gère, voilà. Et là, c'est que sur Henri Betty, hein, évidemment. Hein, c'est... Puis sur Wikipédia aussi, j'ai écrit des...
C'est très bien documenté, ça m'a beaucoup servi d'ailleurs, merci.
Ouais,
donc, puisqu'on évoque aujourd'hui l'histoire de ce grand compositeur de la chanson française, auteur de nombreux succès, on va y revenir. Le plus célèbre de tous étant évidemment C'est si bon. Mais je voudrais d'abord qu'on remonte un petit peu dans la vie d'Henri Betty. Et puisqu'il était méridional, même s'il n'était pas vraiment de Marseille, on va écouter cette chanson extraite du film Honoré de Marseille.
Vieux port, quand le jour vient de naître, de bon matin, j'ouvre ma fenêtre. Le boulanger, le marchand de volailles sont déjà là, et chacun travaille. Alors, rassuré, puisqu'ils sont levés, moi, je vais me recoucher. Tout ça, c'est Marseille, merveille des merveilles. La mer est bleue, le soleil brille. Pour les garçons, il y a de belles filles. Et puis il y a des chansons qui montent de chaque maison. D'humeur sans égale, c'est à la provençale qu'on parle avec les mains, comme les Napolitains. Et sur le coup de midi, on s'affole, t'es parti. Tout ça, c'est le midi. Exubérant, galégeur, optimiste, le Marseillais, lui, n'est jamais triste. Mais si parfois il se met en colère, ça fait du bruit, un bruit du tonnerre. S'il est pas d'accord, s'il sent qu'il a tort, il crie bien plus fort. Tout ça c'est Marseille, merveille des merveilles. La bonne mère nous protège, mais en plus de ce privilège, on a, c'est un détail, l'accent avec sa pointe d'ail, la gaieté domine. Au pays de la sardine, on se croise dans les rues. Adieu, comment vas-tu? Venez donc, c'est un conseil. Passez des jours sans pareil. Où ça? Au pays du soleil. Oh, qu'est-ce que c'est? Le tonnerre? Mais ouais, il pleut. Oh, ça alors c'est pas possible. Il y a au moins 20 ans qu'on n'a pas vu un temps pareil. Bon, quand il le sort, il dégringole quelque chose. C'est le soleil qui revient. Oui, mais à Marseille, merveille des merveilles, le temps est comme nous, ça passe d'un seul coup, le Mistral est un ami. quand il souffle, c'est fini. Tout ça, c'est le midi.
On a reconnu bien sûr Fernandel ici dans le film Honoré de Marseille de Maurice Régamé. Vous me disiez, Olivier Betty, le seul film en couleur parmi tous ceux dont votre grand-père Henri Betty a fait la musique.
Hein. Ouais, exactement, 1956, c'est le seul film qui était en couleur. Ouais.
Voilà, et un film qui a eu un grand succès à l'époque.
Ah oui, hein. et son plus gros succès, oui, en tant que compositeur de musique de film. Donc.
Encore, voilà, c'est l'aspect peut-être un peu moins connu de sa carrière, en tout cas par rapport à l'opérette et à la chanson.
Oui, oui, bah oui, voilà.
Et c'était un film de Maurice Régamé, avec qui il a fait également Cigarette, Whisky et Petite Pépée pour la musique, mais tard, ouais. Rien à voir avec la chanson du même nom. Hein.
Oui, oui, c'était une chanson américaine d'ailleurs à la base. Hein.
C'est exactement.
Même pas, et c'était adapté en France. Dans le film, elle était chantée par Annie Cordy.
Alors là, on était donc à Marseille, hein, mais en réalité, votre père, François Betty, il est né à Nice. Je ne sais pas s'il est niçois, les Marseillais s'aiment beaucoup d'ailleurs dans la réalité, non ?
Il n'y a pas une haine totale, mais, mais ils s'entendent pas trop. Non.
Comme généralement les grandes villes qui sont dans la même région.
Ben, mais... Rien que déjà le patois, c'est pas du tout le même.
C'était un pur niçois, Henri Betty.
Oui.
Hein.
Ah bah oui.
Et d'un milieu populaire, je ne sais pas si vous avez connu vos grands-parents.
Ah oui, bien sûr, oui.
Alors, votre grand-père...
Son père, donc, était peintre en bâtiment.
Voilà.
De très modestes conditions. Et sa maman était vendeuse de poissons.
Voilà, à Nice. Dans le vieux Nice. Et donc, il naît dans ce milieu populaire. Il a eu vite le goût de la musique, de la chanson.
Oui.
Comment est-ce que ça s'est passé?
Oui, tout petit. Hein.
Oui.
Tout petit, il pensait qu'à ça, quoi.
Et jouer du piano. Qu'il pratiquait d'abord le piano,
c'est ça? Le piano. Il a toujours fait que ça, d'ailleurs. Le piano.
Et il avait l'ambition de devenir en fait un musicien classique à l'origine.
Oui, au départ, oui. Donc il a commencé à, je sais pas, à 6 ans à prendre des cours.
Oui.
Et puis ça marchait très bien. Donc le professeur a dit, dans pas longtemps, il faudra monter à Paris pour...
Conservatoire.
Ouais. Et voilà, donc l'âge de 16 ans, je crois, chose comme ça. Hein. C'est rapide.
Oui, 17 ans, 18
ans. Oui, c'est ça, il est monté.
1935.
Tout seul, un grand. Et puis, au début, c'est dur. Hein, c'est...
Ouais.
Les chambres de bonne et tout, les couvertures dans les cornes du piano.
Voilà.
Me raconter des scènes pas possibles.
C'était juste avant la guerre, au fond. Hein.
Tout à fait.
Voilà.
Voilà.
Et donc, il a fait ses études sérieuses au conservatoire.
Voilà. De musique.
Dans
de
l'idée
Paris.
De devenir musicien classique, très précisément.
Il a eu un prix d'harmonie.
Betty, ouais.
Il a eu un prix d'harmonie au conservatoire.
Ouais. Ouais.
Et donc, à ce moment-là, il n'était pas question de chanson, mais la famille ne l'a pas du tout dissuadé de suivre cette voie.
Ah non, non, non. C'est-à-dire par la suite, oui, parce que son père donc était très fier de voir son fils faire de hautes études musicales au conservatoire. Bon, après, il y a eu la rencontre avec Maurice Chevalier, donc ça, c'est sûr, ça
il a changé de voix.
Ah, oui. et le père n'était pas trop content.
Il n'était pas trop content. Bah, justement, alors justement, grâce à nos précieuses archives de l'INA, j'ai retrouvé un petit document où Henri Betty évoque lui-même toute cette période de son arrivée à Paris, de ses débuts, jusqu'à la rencontre avec Maurice Chevalier. Je vous propose qu'on l'écoute.
Oui. Alors, je suis rentré au conservatoire, en classe de piano chez Lazare Lévy, et en classe d'harmonie chez Raymond Pêche. Mais alors, vous avez donc fait des études musicales très sérieuses, vous étiez fait pour faire un musicien dit sérieux, et vous êtes venu à la chanson.
Oui, ça a été en quelque sorte une sorte de carrefour. J'ai dû, malgré moi, tourner le dos au conservatoire, puisque c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, par l'intermédiaire, vous connaissez peut-être, Roger Lucchesi.
Oui,
le guitariste,
bien sûr.
D'ailleurs, de très jolies chansons. Eh bien, il m'a présenté à Maurice en lui présentant lui-même une chanson.
Alors, Maurice Chevalier, oui.
Maurice,
enfin, tout le monde connaît Maurice Chevalier.
Et alors, j'ai donc présenté cette chanson. Maurice s'est intéressé à moi, ou du moins au pianiste. Et il me dit, tiens, vous êtes libre en ce moment? Je dis, qu'est-ce que vous entendez par là? Il dit, je cherche un pianiste, je veux un pianiste qui m'accompagne dans mes tournées. J'ai l'impression que vous feriez bien mon affaire. Je dis, mais non, je ne crois pas, parce que je suis tout de même au conservatoire, je vais reprendre mes études interrompues. Ah, mais me dit-il, mais pas du tout, je comprends très bien que si vous êtes au conservatoire, je ne veux pas vous détourner du bon chemin, retourner au conservatoire. Je dis, écoutez, je vais tout de même réfléchir. Alors là, j'ai écrit à mon professeur, Raymond Pêche, qui est un homme, je dois dire, assez averti.
Oui, très compréhensif.
Très compréhensif, oui. Il m'a répondu, si tu me proposais un artiste, je ne veux nommer personne, mais de moindre envergure, je te dirais non, c'était pas la peine de faire tant d'études au conservatoire pour maintenant mettre tout ce bagage musical au service de la chansonnette. Mais Maurice Chevalier, non, ça c'est vraiment le sommet, le summum de ce qu'on fait de mieux dans la chanson. Et je crois même que tu as intérêt à le suivre, et je te prédis même une petite carrière...
Et il avait raison, il parce avait... que d'ailleurs, ce n'est pas une petite carrière que vous avez faite, mais une grande carrière que vous êtes en train de faire.
Oui, je dois avouer que mon grand patron y a été pour beaucoup. Et puisque à ce moment-là, j'étais venu son accompagnateur et même son compositeur attitré.
Oui, et quelle est donc la première chanson que vous avez faite pour lui ?
Eh bien, justement, comme j'étais son accompagnateur, donc j'accompagnais son tour de chant qu'il avait à l'époque. Et un beau soir, il me dit, voilà, je n'ai pas de nouvelles chansons. Et moi, toute ma carrière a été faite que d'évolution en évolution. Est-ce que vous seriez capable d'écrire une chanson pour moi ? Je ne vous demande pas une symphonie, mais une chansonnette. Mmh. Alors, mon Dieu, ça a été un problème. J'ai essayé. Et je crois que...
Et vous avez réussi.
J'ai réussi.
Et elle s'appelait, cette première
chanson ? Eh
bien,
je ne sais pas si le titre va rappeler des souvenirs, mais en tout cas, l'air surtout, je crois, puisqu'il s'agissait d'une chanson qui s'appelait « Notre espoir », et dans l'air était « Tra-la-la-la-la-la ».
Oui, oui, tout le monde se souvient très bien de cette chanson.
Eh bien, ça, j'espère.
L'amour, j'ai chanté, y a de la joie, sans grande joie pourtant. Chantonnais donc un petit air à pleine voix, l'air fut étouffant. Désormais, quels seront donc les pauvres mots sur les chansons gaies? Pour vous, on invente, on osera placer et sans hésiter trop, pour ne pas me tromper. Moi, voilà ce que je chante. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, et tim-pa-poum-pa-la, tim-pa-poum-pa-la, avec un ou deux petits hop-là, hop-là, si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir, en chantant comme ça, tim-pa-poum-pa-la, c'est notre espoir. En somme, l'important, c'était de recommencer, qu'importe l'expression. L'essentiel était de pouvoir dispenser du rêve en chanson. Un poète aurait trouvé les mots qu'il faut, qui aurait rimé ses voeux d'espérance. Moi, mon espoir, c'est que le ciel redevienne beau et qu'on chante en paix dans notre vieille France. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, et tim-pa-poum-pa-la, et tim-pa-poum-pa-la, avec un ou deux petits hop-là, hop-là, si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir, en chantant comme ça, et tim-pa-poum-pa-la, c'est notre espoir.
C'est moi qui fais ça.
Ce que joue comme ça, cet orchestre-là, c'est notre espoir. Espoir.
La première chanson donc d'Henri Betti, jeune étudiant, on l'a vu avec Lazare Lévy au conservatoire, jouant de la musique très classique, et puis tout d'un coup écrivant cette chanson. Vous la trouvez plutôt réussie, hein, François Betti?
Ah ben, oui, c'est vraiment un coup de maître là, hein, ouais, dans la matière.
Ouais. Cette chanson, elle évoque pour vous des, là aussi quelques...
Alors oui, une anecdote que se plaisait à raconter mon père. Donc c'était sous l'occupation. Hein,
oui, et, oui. Tout ça sort en pleine guerre, hein, malgré le ton joyeux là, qu'on entend.
41 même.
Alors un jour, Maurice reçoit une lettre commandée pour venir à la commandantour à Paris, donc à la place de l'Opéra, pour s'expliquer sur son travail et tout ça. Alors il y va avec mon père, ils y vont tous les deux, pas très fiers. Et puis ils arrivent, ils sont retenus par un haut gradé, et qui commence déjà par féliciter Maurice Chevalier, parce que c'était une vedette incontournable. Donc, « Oh, mais j'aime beaucoup vos chansons. »
Mondial, en plus.
Oui. « C'est très drôle. » c'est voilà. Mais Ben, y a une chanson quand même qui a attiré mon attention, c'est Notre Espoir.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben voilà, alors, les paroles. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu les paroles quand même. Parce que tralala, tralala, zimpapumpala, avec un ou deux petits hop là, ce serait pas un code, quelque part. C'était authentique, hein, c'était ça. Alors Maurice, ben, dit, ben, écoute, pas du tout, alors là, loin de là, ça veut rien dire. On appelle ça des onomatopées, c'est tout. Mais l'autre, il rigolait pas. Hein,
Mais peut-être que notre espoir, c'était aussi que les Allemands s'en aillent, non?
Ben, oui, bien sûr, de toute façon, c'était sous-entendu tout ça. Mais il voulait quand même avoir vraiment le décodage des onomatopées.
Alors, il faut dire, Olivier Betty, que donc votre grand-père Henri Betty, dans toute cette période de la guerre, donc il va partager son activité entre accompagner chevalier et puis faire des chansons pour chevalier, que parfois même, je crois, il jouait des morceaux classiques au milieu de leur tour de chant, j'ai lu ça.
La Rhapsody in Blue, c'est ça?
Oui, et puis la première balade de Chopin.
Oui, voilà, c'est deux... Il les faisait en début et en fin du tour de chant de chevalier.
De chevalier. Ouais. Et aussi, dans son travail avec chevalier, donc il a écrit des chansons avec des... paroles de Maurice Chevalier et d'autres avec des paroles de Maurice Vander.
Hein. Voilà, de Maurice Vander, donc surtout la chanson du maçon.
Voilà, qui a été un des plus gros succès de l'époque.
Voilà, qui était voilà en 41, la même année que Notre Espoir.
Oui.
Et chanson du maçon, oui, bah c'était même leur plus grand succès de leur collaboration. Parce qu'après, il y a eu aussi La Fête à Neuneu, qui a pas mal marché. Mais la chanson du maçon, c'est vrai que c'était le plus gros succès. Ouais.
Pourquoi ça s'est arrêté d'ailleurs, la collaboration entre Chevalier et Betty?
Ben, mon père est tombé malade,
oui.
Puisqu'il a été au sanatorium pendant 2 ans, je crois.
Oui.
Et c'était à cette période-là, donc ils ne se sont plus vus.
Oui.
Et puis ils se sont revus après.
Oui, il n'y a pas eu de fâcherie, je veux dire.
Oh non.
Après, ils se sont revus, donc 9 ans plus tard, ouais, ils ont refait des chansons.
Alors, entre-temps, donc, ce qui se passe, c'est que ce jeune Henri Betty, musicien classique devenu compositeur de Maurice Chevalier, ce qui n'est pas rien, il va faire une seconde rencontre déterminante, si on peut dire, c'est le tout jeune Yves Montand.
C'était en 1947. Ben, en fait, mon grand-père, il avait composé la musique de Mais qu'est-ce que j'ai,
oui,
avec des paroles d'Edith Piaf, et de C'est si bon, avec des paroles d'André Ornaz, donc en été 47. Hein. Et après, donc, il fallait trouver un interprète. Quoi, voilà.
Oui.
Et en fait, c'est là qu'ils se sont rencontrés, oui, avec Yves Montand. Et il lui a proposé le même jour les deux chansons, en fait.
C'est si bon et Mais qu'est-ce que j'ai.
Et Mais qu'est-ce que j'ai,
voilà. Et ce qui était étonnant dans Mais qu'est-ce que j'ai, c'est quand même que ces paroles, justement, sont d'Edith Piaf.
Oui. Ouais. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est ce qui a motivé Yves Montand à la chanter,
oui,
plutôt que de chanter C'est si bon.
C'est si bon, qu'il a d'abord commencé par laisser un peu de côté. Hein.
Voilà, exactement.
Alors, on va revenir sur l'histoire de C'est si bon, mais j'ai envie qu'on écoute quand même Mais qu'est-ce que j'ai, parce que l'interprétation de Montand, les paroles de Piaf, la musique de Betty, c'est quand même très très bien. La version d'origine. Hein.
Oui, d'accord.
Mais vous aimez aussi, je sais, beaucoup François Betty, la version beaucoup plus récente.
De Fontaine, ah, oui, de Bruno. Hein.
Le Lambert Wilson avec des arrangements de Bruno Fontaine.
Voilà. Ce qui prouve que les chansons d'Henri Betty continuent à vivre.
Oui.
Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer que ça m'en donne envie de crier sur tous les toits, elle est à moi. J'aurais l'air fin si je faisais ça. C'est pas normal, me direz-vous, d'aimer comme ça, faut être fou. Je le sais bien, oui, mais voilà, je n'y peux rien, c'est malgré moi. Et quand s'en prend, y a rien à faire. Je l'aime tant, c'est merveilleux. Je ne vis plus sur cette terre lorsque je rêve à ses yeux. À ses yeux bleus comme l'azur, à ses cheveux d'un blond si pur. Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer, mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que j'ai? L'amour c'est vraiment extraordinaire, je n'ai plus du tout mes 2 pieds sur terre. Tous mes copains maintenant se moquent de moi, car du plus loin que je les aperçois. Allez ça y est, me v'là parti, elle a cela, elle a ceci. Oui oui, qu'ils me disent, on voit très bien. Ces idiots-là n'y comprennent rien. Mais qu'est-ce que j'ai? J'attends l'aimer, que ça m'en donne envie de crier. Sur tous les toits, elle est à moi. J'aurais l'air fin si je faisais ça. C'est pas normal, me direz-vous, d'aimer comme ça, faut être fou. Je le sais bien, oui, mais voilà, je n'y peux rien, c'est malgré moi. Et quand s'en prend, y a rien à faire. Je l'aime tant, c'est merveilleux. Je ne vis plus sur cette terre lorsque je rêve à ses yeux. À ses yeux bleus comme l'azur, à ses cheveux d'un blond si pur. Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer, mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que j'ai?
Yves Montand, en 1947, dans cette chanson d'Henri Betty, parole d'Édith Piaf. D'ailleurs, à l'époque, hein, Olivier Betty, qui était donc lié au jeune Montand et qu'elle a écrite un peu pour lui, hein, sur mesure, on peut dire.
Voilà, exactement. Oui. Il était amoureux d'elle et puis elle a écrit des paroles, donc une chanson d'amour. Hein, donc, et après, donc, il fallait qu'il y ait un compositeur qui mette de la musique dessus. Et, donc,
et on a fait appel à Henri Betty, qui commençait à être bien connu grâce à Maurice Chevalier et qui a donc, vous l'avez dit, au même moment... écrit « C'est si bon », refusé d'abord, donc d'une certaine façon, on peut dire par Yves Montand, avant de devenir le plus grand tube d'Henri Betty et un des plus grands tubes de l'histoire de la chanson. Alors, on peut redire un petit peu la vraie chronologie du succès de « C'est si bon
». Là, je vais laisser la parole à mon fils, parce qu'il connaît ça
Olivier,
alors, sur le bout des doigts.
Ça commence comment? Donc, votre grand-père l'écrit donc sur des paroles d'André Ornez, hein, le complice de Ray Ventura.
Et le parolier de Paul Misraki.
Ils étaient donc tous dans la même bande, un peu, ils se connaissaient, enfin.
Oui, oui. Voilà. « C'est si bon », il faut savoir que c'est la première chanson de mon grand-père avec André Ornez, d'ailleurs. C'est la première collaboration. Ouais. Parce qu'avant, il était avec Maurice Vander, mon grand-père, le parolier Maurice Vander.
Oui,
et donc là, c'est Ornez qui l'a rencontré, puis ils ont fait ça. Ça démarrait bien, hein, c'est sûr.
Donc, Montand la refuse d'abord.
Et donc après, fallait trouver un autre interprète, hein, tout simplement. Ouais. Et c'est là que Paul Beuchère, l'éditeur de la chanson, a proposé à l'orchestre de Jacques Ellian de l'interpréter pour la radio. Et c'était le 18 janvier 1948.
Voilà, il y a donc exactement 70 ans.
Voilà, la création de C'est si bon, elle a 70 ans cette année, alors qu'elle a été écrite en 47, en été 47 même.
Donc premier enregistrement en janvier 48 avec l'orchestre de Jacques Ellian, chanté par...
Jean Marco,
voilà, qui était un des chanteurs de l'orchestre.
Oui.
Mais ce n'est pas encore vraiment cet enregistrement-là qui a lancé la chanson.
Non.
C'est plutôt ceux qui ont suivi, notamment les sœurs Étienne.
Les sœurs Étienne au mois de mai. Je l'ai appris même récemment, quelques jours avant que Yves Montand ne le fasse. Une semaine, je crois, avant que Yves Montand ne l'enregistre.
Parce que Yves Montand finit par l'enregistrer, la chanson marche bien.
Voilà, exactement, c'est ce qui a dû se passer dans sa tête. Il s'est dit, oh merde, ça marche bien, donc du coup, je vais l'enregistrer en espérant que ça marche encore mieux.
Voilà. Mais entre-temps, il s'est aussi produit, ou la même année, quelque chose à Monte-Carlo.
En juin 1950, donc Paul Beuchère, l'éditeur de C'est si bon, il a proposé à Suzy Delair de l'interpréter au casino de Monte-Carlo avec l'orchestre de Aimé Barelli, qui était installé là-bas depuis un an, je crois. Quand elle a fait les répétitions là-bas, dans ce casino, il y avait Louis Armstrong qui était
là, parce qu'il y avait un festival de jazz à Nice.
Il était là au même moment. Ouais. Et donc, il a entendu la chanson qui lui a plu. Et puis après...
Il l'a enregistré de retour aux États-Unis.
Il a demandé à l'enregistrer. Et puis, il l'a enregistré un mois après seulement à New York. Et puis après...
Et c'est là que la chanson est devenue un succès mondial, repris.
Après, c'était...
Vous avez compté, François Betty, combien de versions de C'est si bon?
500, hein, c'est ça. Hein.
Oui, de toute façon, c'est impossible de compter les standards comme ça. C'est impossible de savoir au chiffre près. Hein, mais après, c'est par centaines, donc 400, 500, par là. Quoi.
Voilà, alors je propose qu'on écoute justement les deux premiers enregistrements de la chanson. On va écouter un couplet, un refrain par chacun. D'abord, donc, le premier, celui de Jacques Ellian et Jean Marco. Et puis tout de suite après, celui des Sœurs Étienne avec l'orchestre de Raymond Legrand.
Je ne sais pas s'il en est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon. de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement, c'est bon.
Je ne dis pas que c'est un phénomène, mais de plus beau, il n'en est pas pour moi. Je pense à lui tout le long de la semaine, ma vie commence dès que je le vois. Et je fais ah, et je fais ah, c'est si bon. Et de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement, c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Il m'a conquise et je n'en veux plus d'autre. Il est pour moi tous les hommes à la fois. Il me fait oh, il me fait ah, c'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon quand il joue du piano tout le long de mon dos, tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'il a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je tiens dans mes bras de me dire que tout ça c'est à moi pour de bon.
Cher et regretté Sœur Étienne en 1948, tout comme Jean-Marco et l'orchestre de Jacques Elian dans les deux premiers enregistrements de C'est si bon, tube mondial s'il en est, un des plus grands de la chanson française. Je ne sais pas si on peut mesurer entre My Way et quelques autres qui arrivent en tête. Hein, vous avez une idée?
Les feuilles mortes.
Les feuilles mortes.
La vie en rose. C'est si bon, c'est le trio.
Ah voilà, c'est ça.
Le tiercé gagnant.
Alors, François Betty, j'imagine que vous connaissez pas toutes les versions, mais vous en avez quelques-unes que vous préférez de cette chanson de votre
oui,
père?
Oui, là, vraiment celle que j'adore. Ouais. C'est celle d'arrangement de Michel Legrand de Barbara Streisand.
Oui, très belle version. C'est très lente, hein?
Oui, oui. Ouais. Il y a une vidéo d'ailleurs.
Planante.
Que je connaissais pas. Oui. Ouais. Ah, c'est magique. Enfin, puis l'arrangement est extraordinaire.
Et alors, quand on veut utiliser C'est si bon pour une reprise ou dans un film ou autre, alors on doit vous demander l'autorisation? Comment ça se passe pour les droits?
Non, c'est pour les publicités.
Ah, pour les publicités.
Voilà, d'accord. Les droits de synchro. Voilà. Donc là, oui, il faut l'autorisation
des ayants droit.
Des ayants droit.
Bien entendu. Normal. Alors, vous-même, donc, Olivier Betty, vous avez une version préférée de C'est si bon?
Il y en a une que j'aime bien, mais en fait qui n'a pas été enregistrée sur disque. Elle a été chantée à la télévision, c'était celle de Smaïn.
Ah oui. Ah oui, donc ça continue, c'est si bon, ça s'est pas arrêté dans les années 60 ou 70.
Ah non, hein. Non, pas du tout. ça continue toujours, hein, puis je crois que dans 10 ans aussi, ça continuera encore. Mais oui, c'était en 2008 d'ailleurs, je crois, c'était à 10 ans. Ouais. C'était à l'émission de Patrick Sébastien, Les Années Bonheur.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Et Smaïn, il l'avait interprété donc comme ça en live, hein, comme on dit, ouais. Avec l'orchestre de René Cole. Ouais. L'orchestration, c'est vraiment très bien. Hein.
Voilà, en tout cas, bon, effectivement, un succès invraisemblable. Est-ce que Henri Betty comprenait pourquoi cette chanson-là était passée comme ça à un tel niveau de célébrité, plus que les autres ?
Non, non, il était le premier étonné.
Ouais. Il en était heureux, j'imagine.
En aussi, ben oui, bien sûr. Ouais. C'est le jackpot, quoi. C'est magique, hein. C'est une fois dans une vie comme ça. Quand on demandait à mon père combien il avait écrit de chansons, ben, il disait ben, une. C'est si bon.
C'est drôle. Voilà, c'est modeste parce qu'en fait, il a eu quand même d'autres succès. Parce que le régiment des mandolines ou la chanson du maçon, ça a été des vrais succès aussi, mais évidemment pas internationaux.
Ben, c'est ça. Voilà. Ça, c'est Monsieur Armstrong qui a ouvert les.
Bien sûr.
Les écluses.
Alors, le paradoxe, c'est que Henri Betty, juste après cet immense succès dans le domaine de la chanson, abandonne quasiment la chanson pour se tourner vers l'opérette.
Oui, à grand regret. Ouais. Ça, il m'a toujours dit que...
Parce qu'il avait été malade, c'était... que la vie de...
Ben oui, et puis il y avait la famille qui était là aussi, il fallait... Ouais. Nourrir.
Oui, c'est si et bon, ne rapportait pas encore les droits, sans doute que ça rapportait par la suite.
Non,
et l'opérette apparaissait comme un métier plus rentable. Il y a une interview dans laquelle il explique d'ailleurs que le musical à ce moment-là se portait pas bien et que l'opérette se portait beaucoup mieux.
Ah oui,
en fait,
tout à fait. Tout à fait. Il y a eu Baratin, en effet, donc qui.
Sa qui première opérette.
Qui a marché sa deuxième très, opérette. Très, très fort. En fait.
Alors, on va le retrouver tout de suite, Henri Betty, justement, dans un tout petit bout où il nous explique ce passage, ses débuts dans l'opérette avec Mlle Printemps et Baratin.
Je me suis tourné vers l'opérette et là j'ai eu tout de même de la chance, malgré que ma première opérette n'a pas eu une carrière éblouissante, il s'agissait de Mlle Printemps, une opérette qui était interprétée par Jeanne Sorza, Armand Bernard, Jacques Morel. J'avais une excellente distribution et mon Dieu, je dois dire que la presse m'a fait de très bonnes critiques pour la partition musicale.
Et c'est bien dans cette opérette que vous aviez une chanson qui est devenue un très très gros succès.
Ah, le régiment des mandolines.
Oui, ça c'est un succès.
Surtout à Nice, je crois qu'on l'a beaucoup chanté.
Oh, dans toute la France. Dans toute la France.
Oui, alors ensuite, puisque j'ai vu qu'il fallait faire de l'opérette, j'ai continué et j'ai eu la chance de tomber sur un groupement d'artistes, je parle auteurs, puisqu'il s'agit d'André Ornez, de Jean Valmy, de Bruno Cocatrix, de Reventura. Nous formons un groupe de gens qui nous aimons bien. Il y a surtout de la camaraderie. Et ça a donné naissance à cette opérette, Baratin. Et
oui, qui alors là, je crois, est vraiment un des plus gros succès d'opérette, puisqu'elle se joue à Paris depuis combien de temps ?
Ben depuis 4 ans.
Depuis 4 ans. Et on la joue toujours. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que vous allez être riche ?
Remarquez, ce n'est pas à cause de la musique.
Mais si,
non,
mais
non,
si.
Il faut bien le dire, c'est Roger Nicolas, il est pour beaucoup.
Là-bas sous les tropiques, il est un endroit typique. C'est un éden pour ceux qui aiment faire des prodènes. Des belles filles au corps de marbre se baladent au bas des arbres. Bref, tout à fait l'endroit rêvé, mais faut le trouver. C'est pas au bas des citronniers, c'est pas au bas des bananiers, c'est pas au bas des pistachiers, c'est pas au bas des cognassiers, c'est pas au bas des tamaris. Mais alors, où c'est-il ? C'est au bas des bas, au bas, que chacun se sent là-bas plus heureux qu'un nabab. Car les dames ont des appâts tellement admirables qu'on est certain d'avoir du rab, et même du rab, de rab. Elles adorent les bijoux, mais elles ne sont pas snobs. Elles les mettent autour du cou et ça leur sert de robe. Y'en a pas de plus gentil vraiment sur tout le globe, que pas un seul ne se dérobe quand on lui dit je te gobe. Elles vous font du genou, elles vous rendent de fou, et puis d'un seul coup elles vous donnent tout. Car au bas des bas, en bas, rien à faire, on ne peut pas rester imperturbable. Que l'on soit marchand nouka ou bien expert comptable, pour la nouba, il n'y a pas meilleure adresse. C'est au bas, c'est au bas des bas, au bas.
Les Baobas, tout un jeu de mots évidemment très subtil dans l'opérette baratin en 1949, créé au théâtre de l'Européen. D'abord, moi ça me fait rêver cette idée où l'opérette marchait mieux que le musical. On a du mal à imaginer ça encore dans les années 50.
C'était l'âge d'or. Hein.
L'âge d'or. Et c'est pour ça donc qu'Henri Betti, pour faire vivre que sa famille, comme vous le dites, s'était tourné vers l'opérette. Avec donc André Ornez, qui a écrit les paroles de ces Baobas et qui était devenu en fait le complice.
Le parolier attitré
de mon père, de Betty.
Voilà. Ils s'entendaient à merveille, donc.
C'était deux grands amis, quoi.
Oui.
Vous-même, François Betty.
C'est le parrain de ma sœur.
Le parrain de votre sœur. Voilà, vous qui êtes né dans ces années-là, vous les avez connus, tous ces amis de la bande, les Reventura, les Ornez, etc., votre père évoquait tout à l'heure.
Oui, Valmy aussi, Jean Valmy, qui était bon parolier aussi. Enfin, lui, il faisait les livrets plutôt.
Librettiste.
Baratin, c'est Jean Valmy.
Oui. Voilà,
c'est ça, le livret. Ouais. Il y avait des réunions de poker à la maison.
Ah bon? C'était au poker. Ah oui, voilà, c'est ça.
Et puis chaque...
Ça durait tard.
Bien sûr. Soit chez mon père, bon, ça changeait. Ou alors, la société, la SACD, avait un château au bord du Loiret, qui s'appelait le Rondon.
Ah oui.
Et là, on passait toutes nos vacances. Hein. C'est là que j'ai connu Christian, etc.
Christian Bonneau, le fils de Paul Bonneau. Oui, parce que tous ces hommes-là, c'était les grands hommes de la SACD, évidemment.
Donc, ils se retrouvaient tous au Rondon. Alors, j'ai des souvenirs formidables. J'ai même connu Henri Busser.
Le très vieux, à l'époque, compositeur de musique.
Je sais pas, je devais avoir 8 ans. Lui, il en avait pas loin de 100, si c'était pas même dépassé, parce qu'il est mort à 103, 105, je sais plus.
Oui. SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, hein, donc où se retrouvaient à la fois les auteurs et les compositeurs, aussi bien d'opéra que d'opérette. Hein,
Tout à fait.
André Ornez, c'était quel genre de personnage, lui?
Oh, il était très discret, très intelligent.
Ouais.
Il y avait des discussions formidables, avec toujours un point de vue équilibré, et puis un humour formidable, comme on peut le voir dans
comme on peut le voir dans ses chansons.
Oui.
Et vous-même, Olivier Betti, qui était loin d'être né encore, malgré tout, cette époque de baratin, ça vous inspire quelque chose? Parce que pour moi, André Ornez, c'était plutôt le complice de Ray Ventura. On a vu que c'était devenu l'ami de votre grand-père, mais Ray Ventura faisait aussi partie de ce petit groupe.
Oui, c'était le chef d'orchestre de toutes les chansons du répertoire de Paul Mistraki, surtout. Ouais.
Mais avec votre père aussi, ils ont fait des choses ensemble.
Donc cette opérette baratin. Et d'ailleurs, mon grand-père, Henri Betti, il avait enregistré la chanson Les Baobabs avec l'orchestre de Ray Ventura, donc.
Lui-même comme chanteur.
Voilà, exactement. Il a enregistré lui-même en 49, hein, donc. Quand l'opérette a commencé, la même année en fait, quoi. Je crois, à ma connaissance, que c'est d'ailleurs la seule chanson, son seul enregistrement qui existe encore de nos jours, qui est sur disque, quoi.
Pas tout à fait le seul d'ailleurs, parce que heureusement, comme toujours dans nos archives de l'INA, on a pas mal de petites émissions où Henri Betti chante en s'accompagnant lui-même là dans des petits tours de chant de ses chansons.
Ouais, après, pour la télévision, il a chanté.
Il l'a fait aussi beaucoup à la télévision, notamment avec Jean Noël.
Oui, pour les émissions de 36 chandelles, 36 chansons aussi, et où il a chanté, interprété au piano, puis chanté en même temps, parce qu'il était souvent invité dans ces émissions. Ouais. Ils étaient copains.
Il aimait chanter, en fait.
Il chantait très bien. Voilà.
Alors, on va passer à l'opérette suivante. L'opérette suivante, c'est donc tout juste un an après Baratin. Mais Baratin, on a compris, continuait en même temps, hein, pendant 4 ans. Ça s'appelait L'école des femmes nues. Et là, il y a plusieurs chansons qui sont plus ou moins restées dans les mémoires, mais une que je trouve très jolie, qui s'appelle Je cherche un cœur, chantée par Jacques Pils.
Ce n'est pas dans ma nature de faire des sermons, oh non, de donner des leçons, oh non, chacun vit comme il veut. Si vous aimez l'aventure, moi je vous réponds, oh non, on n'obtient rien de bon, oh non, plus modeste est mon vœu. Je cherche un cœur qui ne battrait que pour mon bonheur. Je serais seul à posséder, est-ce trop demander? Un cœur naïf, un cœur pur sans passé ni passé, et qui n'irait jamais marauder, est-ce trop demander? Un cœur aimant dont je serai le plus
beau roman. Je ne demande rien en retour que son amour. Pareille idée de nos jours, est-ce trop demandé? Ça peut sembler ridicule, de cœur très épris, oh oui. L'amour pur aujourd'hui, oh oui, n'a plus grande valeur. C'est avec des majuscules que moi je l'écris, oh oui. Ce mot le plus joli, oh oui, qui donne le bonheur. Je cherche un cœur qui ne battrait que pour mon bonheur, que je serais seul à posséder, est-ce trop demandé? Un cœur épris qui jugerait l'amour à son prix, sans jamais chercher à marchander, est-ce trop demandé? Un cœur aimant dont je serais le plus beau roman. Je ne demande rien en retour que son amour. Pareille idée de nos jours, est-ce trop demandé?
Jacques Pils, en 1950, dans cet extrait de L'école des femmes nues, musique d'Henri Betti. Je précise d'ailleurs, orchestre dirigé par Henri Betti, il était aussi chef d'orchestre certains enregistrements.
Tout à fait.
François Betti. Hein.
Voilà, oui. Voilà. Notamment ici même, à la Maison de la Radio.
Ici même, à la Maison de la Radio, ouais. Il a dirigé aussi pour des œuvres de musique légère ou de...
Des pièces que j'ai eu le plaisir d'écrire, mais je n'osais pas les diriger.
Ah bon?
J'étais trop jeune. Alors c'est mon père qui a dirigé. Les séances. Oui.
Il avait gardé d'ailleurs de ses jeunes années le goût de la musique classique. Il en écoutait toujours. Il allait au concert.
Non, ça pas trop. Mais alors un pianiste,
il continue à jouer son grand répertoire, Beethoven et son
Chopin, Debussy, Ravel, tout y passe. Hein, c'est très bon pianiste.
Il faut dire que là, on est en 1950, donc vous êtes né en 1953, mais il avait rencontré votre mère un petit peu avant, pendant l'opérette Baratin. Hein.
Ben voilà. Voilà. Baratin, ça a été un foyer amoureux aussi. Et puis voilà, en 6 mois de temps, hop. Et André Ornaise aussi. En fait, ma mère et Gisèle étaient danseuses.
Toutes les deux.
Voilà.
Dans Baratin.
Voilà.
Et elles ont épousé l'auteur et le compositeur.
Voilà.
En choisissant quand même un titre comme L'école des femmes nues, après c'était un petit peu osé, mais là c'était pas André Ornaise, c'était Jean Boyer qui avait fait les paroles, mais là évidemment il y a toujours un côté un petit peu croustillant dans l'opérette de l'époque pour attirer le public. Alors là ce sont les femmes nues. Vous m'avez dit, Olivier Betti, que même C'est si bon, ça aurait été inspiré par un magasin de lingerie féminine.
Ah oui, la mélodie de la chanson, oui, elle est venue quand, en fait, mon grand-père, il se baladait à Nice, sur l'avenue Jean Médecin, et en fait, il regardait la vitrine d'une boutique de lingerie féminine, et c'est là que la mélodie, elle est venue en tête, oui, c'est vrai.
Ça, c'est quand même extraordinaire.
Les 9 notes, les 9 notes du refrain, quoi.
D'accord, elle serait inspirée par des,
c'est,
des vêtements légers,
comme quoi,
dans une vitrine. Extraordinaire. Bon, en tout cas.
Pourquoi pas.
Ça donne des idées.
À propos des femmes, donc, des femmes nues, des deux épouses d'Ornaise et de Henri Betti, il y a aussi une autre femme dans la famille que j'ai déjà évoquée souvent dans cette émission parce qu'on a beaucoup d'enregistrements avec elle. C'était Freda Betti,
bien sûr.
Chanteuse lyrique, qui était donc François Betti.
Eh bien, ma tante.
La sœur d'Henri Betti.
Ma tata, et voilà, tout à fait. Donc, c'était une mezzo-soprane.
Oui.
Alors son cheval de bataille c'était Carmen, ça c'est sûr, c'était le rôle. Donc je la suivais dans toutes ses représentations, à Paris, mais à Rouen, à Lyon, enfin on allait souvent
dans France.
Oui,
c'était une carrière importante.
Oui. Ben, j'ai des souvenirs formidables parce que aussi en bonne niçoise, elle était très pétillante, toujours très très gaie. Enfin, quand elle arrivait à la maison, c'était le soleil quoi.
Elle a laissé alors beaucoup d'enregistrements, et je propose qu'on écoute un petit extrait d'une opérette de Lecoq, Le jour et la nuit, parce que ça c'est l'époque où elle participait à l'orchestre lyrique de la radio et où elle a fait des quantités d'air avec toute la troupe de cette période.
Mon cabaret, entre nous je m'en vante, et le rendez-vous de tous les bons garçons. Matin et soir, on y rit, on y chante, et l'on s'amuse sans faire de façon. Aimez-vous donc, jeunes gens, jeunes filles, embrassez-vous, je trouve ça très moral. Égarez-vous sous les vertes charmilles, mes petits amours, je n'y vois aucun mal. Tout ça, ça m'est égal, tout ça, ça m'est égal. Je demande pas mieux que chez moi l'on se divertisse, à condition de ménager la police. Oui, mes amis, je veux bien qu'on se divertisse, mais méfiez-vous, méfiez-vous de la police. Personnellement, j'ai le cœur très sensible, à Cupidon, je sais pas le résister. Aussi, je trouve excessivement pénible vouloir défendre aux autres de s'aimer. Chacun le sait, je ne suis pas sévère, je permets tout, j'ai l'esprit libéral. Ne vous gênez pas, chiffonnez l'eau de lièvre, ou bien rosez mon valet Cristobal. Tout ça, ça m'est égal, tout ça, ça m'est égal. Je demande pas mieux que chez moi l'on se divertisse, à condition de ménager la police. Oui, mes amis, je veux bien qu'on se divertisse, mais méfiez-vous, méfiez-vous de la police.
Fred Abetti dans Le jour et la nuit de Charles Lecoq avec l'orchestre Radio Lyrique sous la direction de Roger Ellis. On retrouve d'ailleurs Fred Abetti dans pas mal d'enregistrements qui ont été réédités de l'orchestre lyrique de l'époque. Et puis vous me disiez, Olivier Betti, qu'on la retrouve aussi dans quelques films musicaux hein, de la télévision.
Oui, à la fin des années 50 et au début des années 60, elle avait joué dans Le Médium, Le Bavard et Le Médecin Malgré Lui.
En cherchant un peu justement sur le site de l'INA, par exemple, on va pouvoir les retrouver. C'est toujours intéressant pour les auditeurs qui demandent toujours où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, où est-ce qu'on peut entendre, notamment en regardant le site donc de l'INA. François Betti, on arrive en 1953, on va écouter un extrait de Mobilette, la nouvelle opérette d'Henri Betti, mais c'est aussi l'année de votre naissance.
Tout à fait.
Voilà. Vous étiez à l'époque au berceau, mais par la suite vous avez décidé de devenir vous-même musicien.
Ah, oui.
Vous jouez aussi bien de la guitare que des percussions du piano.
Oui, j'ai commencé le métier par la guitare,
ouais.
Parce que ça s'est présenté comme ça, mais à l'école normale de musique où j'étais, je faisais en même temps la classe de piano et d'harmonie. Voilà.
Et votre père vous a plutôt encouragé ou dissuadé? On ne sait jamais, parce qu'on a quelquefois peur que les enfants ne soient pas heureux dans ce métier.
Oui,
ou que...
c'est vrai.
Ouais.
Mais non, il m'a encouragé et ça s'est très bien passé.
Donc Henri Betti, dans ces mêmes années qu'on suit votre naissance, lui de son côté, a commencé à beaucoup composer pour les revues à grand spectacle.
Voilà.
Et alors pourquoi est-ce qu'il est passé de l'opérette à la revue? Parce que l'opérette...
L'opérette déclinait
à son tour, c'est ça.
Et puis bon, il y avait quand même aussi l'autre équipe de Francis Lopez, Châtelet.
Oui, qui avait pris un peu le dessus.
Voilà. Ouais. Et avec Paul Bonneau justement, qui faisait toutes les
orchestrations.
Tout ça. Et ça avait un succès fou avec Mariano.
Mariano.
Et puis, il s'est retrouvé sollicité par le Lido.
Lido et les Folies Bergères d'abord.
Oui, c'est ça.
Et puis un peu plus tard, le Moulin Rouge.
Oui, tout à fait.
Ça voulait dire composer des quantités de chansons aussi, là.
Oui, alors bon, le problème du cabaret, c'est que c'est bien rare quand il y a une chanson qui s'envole, quoi.
Ah oui, ça reste un peu confiné au spectacle.
Et cependant, il y en avait des drôlement jolies.
Ouais.
Ah oui, mais c'est enterré, hein.
Des années plus tard, vous l'avez un peu rejoint, une fois votre formation de musicien terminée, vous l'avez rejoint, et épaulé dans ses compositions pour les revues.
Tout à fait. Travaillé en collaboration avec son père, avec Jean-Pierre Landreau, qui était un pianiste hors pair, formidable. Alors moi, je baignais dans l'huile.
Mais il fallait aussi écrire des musiques de scène, des ambiances musicales, c'était pas seulement des paroles.
Ah non, oui. Voilà. Non, il y avait des ballets.
Des ballets, par exemple.
Voilà, je me régalais à faire ça avec mon père, et puis on était une bonne équipe. Là.
Voilà, il a écrit, d'ailleurs, on peut dire, pour le Moulin Rouge et les Folies Bergères, jusqu'au début des années 80, Folie de Paris, Femme.
Alors après, il y avait une collaboration avec un Américain, au décès de Jean-Pierre Landreau.
Oui.
Don James, qui était un excellent musicien et qui a fait ses revues, les deux ou trois dernières.
Alors, on va justement revenir donc à cette année qui a été marquée par la naissance de François Betti, 1953. C'était, je l'ai dit, l'année de Mobilette. La dernière opérette, disons, légère, avant de passer à l'opérette à grand spectacle d'Henri Betti, c'était à nouveau au théâtre L'Européen. Et là-dedans, jouait en particulier toujours notre chère Suzy Delair.
Où l'on se promène volontiers, il n'a rien de bien spécifique, mais je l'aime parce que c'est mon quartier. Grenelle, petite rue modeste et sans détour, monotonie des murs familiers, du vieux garni et des ateliers. Grenelle, petit bistrot avec aux alentours des cheminées qui montrent les cieux d'un petit air prétentieux. Là, c'est la fête foraine sous le métro aérien et le flonflon des rengaines brave le vacarme des trains. Il n'y a qu'à Grenelle qu'on voit la vie en robe de tous les jours. On n'y est pas très bien éduqué, mais on n'y fait pas de chiquet. C'est pas les avenues de l'Étoile où vivent les stars de ciné, mais quand on veut voir les étoiles chez nous, bah, on lève le nez. Grenelle, petite gens qui peine jour après jour, gosses dégourdis qui vont à l'école et métallos qui sortent sans faux col. Grenelle, lorsque la nuit descend sur les carrefours, des becs de gaz éclairent sans espoir la solitude des trottoirs. Là, c'est le petit bal musée où l'on guinche le samedi soir. On y perd un peu la tête, mais ça ne fait pas d'histoire. Et dans les ruelles, sans s'occuper des gens et des alentours, amoureux échangent des mots doux, comme ça se fait tout partout. Et voilà pourquoi j'aime son chez moi à Grenelle.
Suzy Delair qui chante Grenelle avec l'orchestre de Jean Marion en mars 1954, extrait donc de l'opérette Mobilette d'Henri Betti, qui avait été un bon succès aussi, je crois d'ailleurs, cette opérette à l'européen.
Ça avait bien marché, oui, ouais. C'était Mobilette, oui, donc avec Suzy Delair et Lucien Lupi.
Et Lucien aussi. Lupi, hein, oui.
Ils avaient chanté Faisons semblant d'être amoureux, voilà, coucher dessus, coucher dessous. Pendant que j'y pense, la chanson là que vous venez de passer, Grenelle, elle a été choisie par Mathieu Moulin pour faire partie du CD de la compilation Les chansons de ma jeunesse. Mathieu Moulin, c'est le directeur artistique
de Marianne Mélodie. Et donc il a sorti tout un coffret Henri Betti.
Voilà, un CD de 26 chansons. Et parmi les 26, il y a celle
de Grenelle. Donc voilà, là encore, chers auditeurs qui me demandaient toujours comment on peut trouver tout ça, Marianne Mélodie, si vous avez internet, vous regardez sur le site et vous trouverez tout un disque Henri Betti bien choisi. Et
voilà,
par Mathieu Moulin avec Olivier Betti. Après ces opérettes légères qu'on a évoquées, L'école des femmes nues, Mobilette, Baratin, il y a en fait un tournant, François Betti, parce que votre père, dans les années suivantes, a fait moins d'opérettes et s'est tourné aussi vers le nouveau genre qui était au fond à la mode, peut-être après Lopez, qui était l'opérette à grand spectacle.
Oui, il faut dire que ces années-là, il y avait la grosse vague Yéyé qui arrivait.
Aussi, oui.
Et c'était un tsunami, quoi. Et là, mon père, bah, il n'aimait pas. C'était,
ah
pas
oui.
C'était pas son truc.
Il n'était pas en phase. Là.
Donc, voilà. Donc, il s'est dit, là, il faut faire autre chose. Il faut
essayer des nouvelles choses.
Voilà.
Et c'est ainsi qu'est notamment sortie cette opérette, qui, je crois, a eu du succès aussi, qui s'appelait Maria Flora en 1957, d'abord.
Oui, oui, au Théâtre du Châtelet.
Voilà.
Avec des paroles de Raymond Vinci.
Oui, voilà. Qui était donc le parolier de Francis Lopez.
Et voilà. Et l'interprète, c'était Rudy Irigoyen.
Irigoyen, absolument.
Et Paul Bonneau, les orchestrateurs.
Ah oui.
Là, c'est un grand succès, on peut dire, Maria Flora.
Oui.
Hein.
Oui. Oui, oui, oui.
Ensuite, c'est donc, toutes ces années, on l'a dit juste auparavant, consacrées essentiellement aux revues à grands spectacles, mais aussi encore un dernier retour à l'opérette. Alors là, c'est beaucoup plus tard d'Henri Betti, en 1969. Avec cette dernière opérette qui s'intitule Le Marchand de Soleil.
Voilà.
Alors là, vous étiez plus grand, François Betti, vous devez vous rappeler Le Marchand de Soleil.
Oui, bien sûr.
C'était à Mogador.
C'était sympathique, tout à fait.
Alors racontez-nous un peu
ce spectacle. Tino Rossi, oui, bien sûr, c'était une grande figure quand même. Hein.
Ouais.
C'était un très bon enfant.
C'était un bon succès, cette opérette, Le Marchand de Soleil?
Oui, mais elle n'a pas duré longtemps quand même. Hein.
Je crois qu'un an.
Un an, comme ça. Voilà.
Ah oui, un an, c'était pas beaucoup pour un compositeur de la génération d'Henri Betti.
Non.
Aujourd'hui, ça paraît très très long.
Oui, mais non. Non, donc, non, ça n'a pas vraiment été un gros gros succès. Bon.
Et
c'est comme ça, c'est un coup de dé un peu.
C'était aussi avec la musique du fils de Tino Rossi, Laurent Rossi,
oui.
Qui avait aussi travaillé sur cette opérette-là.
Ouais.
Il avait fait des chansons, quoi, des musiques pour les chansons. Ouais.
Après, Le Marchand de Soleil, et dans la dernière partie de sa vie, Henri Betti, qui avait eu tous les succès, donc il n'avait pas de raison d'être amer, mais est-ce que malgré tout, il était un peu triste de la fin de l'opérette comme genre à succès?
Oui. Parce que bon, il avait une nature très exubérante, très méridionale, très gaie, très...
Ouais.
Et vous remarquerez que toutes ces chansons sont gaies.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de chansons en mineur.
Non, c'est vrai.
C'est toujours le mode majeur. Et Ornelle, c'était pareil.
Ouais.
C'était la joie, la joie, la joie, la joie. Alors, à eux deux, ils faisaient un couple. Quand après, il commençait à y avoir des chansons... un message, des choses
ça.
Oui. Là, ça plaisait pas du tout ni à Ornès, ni à mon père. C'était, voilà, c'est autre chose, quoi.
D'ailleurs, il y avait le côté joyeux dans ces chansons, et puis il y avait aussi beaucoup, alors, dans pas mal de titres, l'utilisation de ce qu'on appelait à l'époque les rythmes typiques.
Mmh.
C'est-à-dire, les rythmes latino-américains, les rythmes caraïbes. Il aimait beaucoup ça, j'ai l'impression.
Oui.
C'est peut-être son côté méditerranéen, là, encore.
Oui, bien sûr. Et puis beaucoup d'italiens, hein, parce que les tarentelles, les saltarelles, bon, ça y allait. À volo.
C'est vrai que les Betti sont originaires
tout à fait,
d'Italie à l'origine,
voilà.
Beaucoup de niçois. Bon, on va écouter Le Marchand de Soleil par Tino Rossi, justement, donc la dernière opérette d'Henri Betti en 1969.
Il fait beau, la mer scintille, un bateau sorti du port, un pain sous le vent léger s'endort, et sur le sable d'or passe une fille. Il fait beau, on voit les îles, un oiseau en revient. Côte immobile garde la beauté d'un éternel été. Il est des pays qui n'ont que des hivers. Toi, mon beau pays, ton ciel est toujours clair. Il fait beau, la mer scintille, un bateau est rentré au port, un pain ouvre un œil et puis s'endort, et sur le sable d'or rêve une fille. Il fait beau, la vie est douce, jusqu'aux îles rousses,
et son chant d'amour et d'insouciance meurt dans le silence de ce paradis.
Il fait beau, Tino Rossi dans Le Marchand de Soleil en 1969. Olivier Betty, alors, quand votre grand-père est mort en 2005, vous étiez encore très jeune, mais vous l'aviez connu enfant. Ça a représenté quelque chose pour vous, le fait qu'il ait eu des grands succès, ou vous n'aviez pas d'idée de ça à l'époque?
Non, j'étais pas conscient de ça, parce que je m'y intéressais pas, parce que...
Et puis même dans votre génération, personne finalement connaissait ces chansons. Donc,
ouais, non, puis j'écoutais de la musique de film, donc j'écoutais pas trop ces chansons. C'était mon grand-père avant tout, quoi. Voilà. Papy Henri, comme on dit. Hein.
Papy Henri, voilà.
Je regardais pas l'artiste, en fait, quoi. Vraiment,
et puis depuis quelques années, alors vous êtes devenu un peu l'archiviste d'Henri Betty au sein de la famille, et c'est très utile parce que vous avez fait cette page Wikipédia et vous essayez de lister. Mais est-ce que Henri Betty lui-même avait laissé des archives très ordonnées, comme font certains artistes? Qui vous préparait le travail, j'ai envie de dire, où il a fallu aller un peu à la pêche pour retrouver les choses?
Ah bah non, j'ai fait mes recherches à l'INA, l'INA, au CNC, puis aux archives de la SACEM aussi, pour trouver les dates de déposition.
Les dates de dépôt des chansons, par exemple.
Oui, voilà, des principales, hein, parce qu'évidemment, il en a fait plus de 130, au moins, donc je ne les ai pas toutes faites. Après, c'est pour les photos là où il fallait que j'aille chez lui, quoi. Donc, parce qu'il avait gardé des albums. Donc là, d'accord, j'allais pas trouver ça sur Internet, hein, c'est sûr.
Ouais. Et alors, tous ces documents, vous les mettez en partie en ligne, on peut y accéder
Oui, comme vous l'avez dit, hein, sur Wikipédia, sur la page Facebook d'Henri Betty. Et j'ai aussi fait, c'est un peu moins connu, le site IMDB, c'est Internet Movie Database, où en fait j'ai référencé toutes les utilisations de ses chansons au cinéma et à la télévision.
Ah oui, il y a tout à faire aussi.
Oui, parce qu'il n'y a pas que C'est si bon, il n'a pas fait que celle-là, il y a Maître Pierre, il y en a plein d'autres, quoi. Et donc je les ai référencés par émission, j'ai mis les dates, et puis j'ai mis le nom de l'auteur, de l'interprète, comme ça c'est relayé sur chaque fiche...
Bon, bah voilà, c'est en tout cas des sources très, très utiles pour
tout
le monde.
Ah oui, et puis fiables, hein, parce que j'ai consulté les archives de l'INA et du CNC, donc je peux pas mieux...
Et tu as ta chaîne YouTube aussi,
François. Ah oui, après. Oui.
Voilà. Vous suivez les travaux de votre fils, vous l'épaulez autant que possible.
Mais il est passionné, c'est formidable. Hein.
Voilà.
C'est mon encyclopédie.
Voilà. Votre père, à la fin de sa vie, vivait beaucoup dans les souvenirs, justement, de sa carrière, ou c'était pas trop son tempérament?
Vous savez, pour tout vous dire, les 10 dernières années étaient pénibles. Hein.
J'aurais aimé l'inviter dans cette émission qui existait déjà quand il nous a quittés, mais malheureusement, je crois qu'il était effectivement un peu fatigué déjà.
Oui,
en tout cas, grâce à vous deux, on a pu passer une matinée en compagnie d'Henri Betty.
C'est très gentil.
Et c'est justice qui lui est rendue. Je vous propose qu'on se quitte avec son premier grand succès. On l'a évoqué tout à l'heure, mais on l'a pas passé. C'est la chanson du maçon.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
Oui.
Très bien.
Et c'est Maurice Chevalier. Paroles de Maurice Vander, musique d'Henri Betty. Merci François Betty.
Merci Benoît.
Merci Olivier Betty d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Vous nous avez étonnés.
Il était une fois, là-haut sur un toit, un maçon qui chantait sa romance. Ce fait n'a l'air de rien. Vous allez voir combien un petit fait peut avoir d'importance. Comme il me reste à vous prouver comment, je vais commencer par le commencement. Un maçon chantait une chanson là-haut sur le toit d'une maison. Et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commença l'unisson de deux maçons et d'une chanson. De maçon en maçon, de pignon en pignon et de rue en ville et en village. La chanson prit son vol et dans sa course folle accrocha tous les échafaudages. Le bon vieux curé se mit à danser parce que dans le pays tout entier, mille maçons chantaient une chanson. Tout là-haut sur le toit des maisons, ça leur donnait du cœur au boulot. Les matériaux tout seuls semblaient monter tout seuls et la maison poussait comme des champignons. Ça faisait la joie des compagnons qui chantaient avec tous les maçons tout là-haut sur le toit des maisons. De chantier en chantier, tous les corps de métier travaillaient et chantaient en cadence. Le soleil dans le ciel trouva tout naturel de rentrer à son tour dans la danse. C'est alors qu'il m'est venu cette idée: vous n'en ferez que ce que vous voudrez. Si tout le monde chantait comme les maçons, si chacun apportait son moellon, nous rebâtirions notre maison qui deviendrait, bon Dieu, la maison du bon Dieu. Notre chanson serait la plus belle des chansons. Et quand viendrait la belle saison, nous serions des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons. Des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons.
Maurice Chevalier dans la chanson du maçon sur la musique d'Henri Betti. Henri Betti dont nous avons parlé ce matin en compagnie de François et Olivier Betti. Alors bien sûr, vous pouvez comme toujours réécouter cette émission sur le site francemusique.fr à la page Étonnez-moi Benoît. Et puis si vous voulez en savoir plus sur Henri Betti, rendez-vous donc sur la page Facebook et sur le site Wikipédia consacré à ce musicien.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis juste une petite annonce, une compagnie formidable parmi celles qui essaient de faire vivre l'opérette en France, c'est les Compagnons du Théâtre à Castres qui présentent ce week-end le chef-d'œuvre de l'opérette Véronique au Théâtre Municipal de Castres. Prochaine représentation donc ce soir à 21h et dernière demain dimanche 29 avril à 15h30. Vraiment, ne ratez pas Véronique à Castres par les Compagnons du Théâtre. Et pour se quitter, vous savez que j'aime bien ressortir des grandes pages symphoniques un peu oubliées, délaissées aujourd'hui par les orchestres. Alors on va écouter ce chef-d'œuvre, les danses polovtsiennes, extraites du Prince Igor de Borodine par l'Orchestre Royal Philharmonique et le Chœur Philharmonique de Londres sous la direction de Léopold Stokowski. Les danses polovtsiennes de Borodine par l'Orchestre Royal Philharmonique et le Chœur Philharmonique de Londres, enregistrées en 1969 sous la direction de Léopold Stokowski. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît. La semaine prochaine, c'est le grand cinéaste Bertrand Tavernier qui sera avec moi pour parler en particulier de chansons de cinéma. Il est midi et demi sur France Musique. Vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.